Radio G 101.5 FM.
Il est 19h sur le 101.5 de Radio G. C'est l'heure de la case de Seb. Au menu ce soir, Shinobi, des cons, du comics, des monstres, des maîtresses, les coulisses de la bande dessinée et les coulisses de la littérature. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Nous sommes le lundi 30 novembre, il est 19h sur le 101.5 de Radio G et c'est bien entendu l'heure de la case de Seb. Bonjour à toutes et à tous dans vos radios. C'est l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. J'aimerais commencer cette émission avec un peu de lecture jeunesse. Je vais débuter avec Mini Maîtresse de Guillaume Bianco et Lucie Brion aux éditions BD Kids. Dans ce petit album carré se cache une petite pépite. Il s'agit de l'histoire d'une petite fille qui va donner des cours à des adultes. Faut savoir que cette mini maîtresse, c'est elle qui détient le savoir comme une vraie maîtresse. Et les adultes sont des enfants qui vont devoir apprendre. Enfin, les adultes sont comme des enfants qui vont devoir apprendre plein de choses au fur et à mesure. Alors, oubliez hein, tout ce que vous savez. La Terre n'est peut-être pas ronde. 1 plus 1 ne font peut-être pas 2. Et si vous dessinez très très bien, oubliez ça, puisque c'est elle qui décide de ce qui est bien ou pas. Pourquoi je dis que c'est une petite pépite ? Eh bien, parce que l'humour fait mouche à chaque fois. C'est un humour qui va plaire énormément aux enfants. Un humour parfois un peu potache, jamais vraiment pipi caca, même si on a un petit gagoudeux qui vont pouvoir faire penser à ça pour les personnes qui aiment bien. Hein, y a pas de gêne. On est sur un album qui est dessiné assez simplement, qui fonctionne très bien avec ses personnages très expressifs, avec ses gros yeux. Personnage obligé de monter sur un tabouret pour pouvoir écrire son prénom sur le tableau, cette mini maîtresse, et le dessin fonctionne bien. On est sur un gaufrier de 4 cases par 4 cases qui fonctionne extrêmement bien. Ce sont des petites scénettes qui vont se dérouler sur plusieurs pages. On suit le quotidien de ces élèves sous le joug de cette tortionnaire de mini maîtresse qui n'est pas forcément ultra gentille avec eux, un petit peu comme dans toutes les classes. Elle a ses chouchous et ça se sent bien. Les personnages sont plutôt fun, les situations sont plutôt rigolotes. Pour tout vous dire, ma fille l'a lu et elle a trouvé ça vraiment très très rigolo. Surtout qu'il y a un personnage qui s'appelle Jean-Sébastien, alors ça a beaucoup fait rire de pouvoir se moquer allègrement de son petit papa. Je vous lis ce qu'il y a de marqué au dos hein. Quels sont les meilleurs gros mots? Peut-on additionner des billes et des bonbons? Pourquoi les enfants sont-ils si intelligents et les adultes si bêtes? Voilà le programme des cours de mini maîtresse, cette petite fille qui fait la classe à des parents. Mais ne vous fiez pas à son air sage, avec elle les adultes filent droit. C'est vraiment très sympa. Je sais pas quoi dire de plus. On passe un bon moment. Alors ça se lit très vite hein, pour un adulte, mais un enfant va pouvoir reprendre la lecture plusieurs fois avec beaucoup d'humour, beaucoup de choses. Si vous êtes arachnophobe, évitez l'album. Vous verrez très vite pourquoi, mais c'est vraiment un bon moment de détente, un bon moment de plaisir. Je vous redonne les références, c'est Guillaume Bianco et Lucie Brion, Mini Maîtresse, c'est chez BD Kids. On continue avec de la jeunesse, avec les fabuleuses aventures d'Eléa Chouquette de Benjamin Gérard et Tom aux éditions Clair de Lune. C'est encore un petit format carré hein, qui va pouvoir prendre facilement dans les mains de vos chérubins, toujours sous la forme d'un gaufrier. On suit les aventures d'Eléa, une petite fille d'origine bretonne qui, je ne sais plus quel âge elle a, c'est pas très très grave. Elle s'appelle Eléa et sa maman et son papa l'appellent toujours Chouquette, donc c'est Eléa Chouquette. Et un jour, qu'elle s'ennuie, elle va aller dans la bibliothèque de ses parents et faire l'encontre d'une étrange créature, une étrange bestiole qui semble pourchasser un nain. Mais pas n'importe quel nain, un nain qui a la goutte au nez et qui semble s'être échappé d'un livre. Ce nain, vous l'aurez reconnu, c'est sans doute Hatchoum qui s'est échappé de Blanche-Neige et les sept nains. À la poursuite de ce petit personnage, Eléa va pouvoir arpenter et aller à la rencontre de différentes histoires, différents romans et intervenir dans l'action de ces romans. Et elle va pouvoir... se met un petit peu le chaos et se rend compte que l'univers des romans est assez, assez particulier. Et ça marche bien, c'est plutôt rigolo, c'est une histoire complète, même si y a plusieurs segments, mais c'est vraiment une histoire complète. C'est l'introduction, à mon avis, de plusieurs aventures qui vont pouvoir... continuer sur plusieurs tomes, c'est vraiment très sympa. Ça peut aussi donner envie aux enfants non seulement de lire et de se rendre compte que ce sont des aventures qui sont dans les livres, hein. C'est un petit peu ça le sujet, non seulement on va intervenir sur des histoires existantes, mais ces histoires sont déjà en elles-mêmes des aventures. Et puis ça peut aussi être l'occasion de découvrir des contes ou des légendes comme Hansel et Gretel, La Belle au Bois Dormant, La Belle et la Bête. Et c'est vraiment très sympa comme petite découverte, un petit livre vraiment sympa. Le personnage qui accompagne Léa, c'est Monsieur Tichot. Donc pour l'instant dans ce tome là on n'en sait pas grand chose si ce n'est qu'il est capable de voyager à travers les livres un petit peu comme il le souhaite et que si on s'accroche à lui on peut l'accompagner qu'il soit d'accord ou pas. Je vous redonne les références, il s'agit des fabuleuses aventures d'Eléa Chouquette de Benjamin Gérard et Tom et c'est aux éditions Clair de Lune. Je vous propose qu'on se fasse une première pause musicale avec M, grand petit con, une chanson qui vous laissera deviner de quoi on va parler dans quelques instants.
Personne, je suis mon propre but. Au grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux, mon fond, que je deviens con. Que te fait-il tellement chien. Grand petit con.
Un grand petit con.
C'est pas ce que je veux, c'est pas ma vie. J'ai pas envie. Est-ce que je suis. C'est vieux gris, tout riquet.
Oh non! mon grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, que te fais-tu?
C'est un trésor.
Dis-toi qui c'est quoi?
De la grande illusion. À volonté, c'est l'or.
Dis-toi qui c'est quoi?
Transformé en passion. Qui n'oublie pas la voix.
Dis-toi qui c'est quoi?
Lumineuse des anges. Celle qui te dit tout bas.
Dis-toi qui c'est quoi?
Prends l'amour sans échange. Donne-le sans recevoir.
Dis-toi qui c'est quoi?
Aime du matin au soir. Et surtout, n'oublie pas.
Dis-toi qui c'est quoi?
Grand petit con, c'est toi. Grand petit con, c'est moi.
Dis-toi qui c'est quoi?
Grand petit con, c'est toi. Grand petit con, c'est moi.
Radio G 101.5 FM.
De retour sur le 101.5 de Radio G. Il est, je ne sais pas quelle heure, puisque c'est enregistré, je ne sais pas à quelle heure vous allez l'avoir. J'aurais pu le calculer, mais je ne l'ai pas fait. J'espère que vous avez apprécié ce grand petit con de Mathieu Chédid. Et on va enchaîner avec une bande dessinée qui est pas vraiment pour les enfants. J'ai nommé La cage au con de Robin Recht et Mathieu Angotti aux éditions Delcourt. Et autant vous dire que cette cage au con est plutôt une petite pépite. Adaptée de la nouvelle de Franz Bartelt, je ne suis pas sûr de le prononcer comme il faut. L'histoire, c'est celle d'un con, ou d'un petit malfrat. On ne sait pas vraiment encore si c'est lui le con ou pas. Et ce jeune homme vient de se faire, cet homme vient de se faire gentiment mettre à la porte de chez lui suite à une dispute conjugale. Et il s'en va traîner dans un bar. Et là, il rencontre une personne, un Richard, visiblement alcoolisé et aviné, qui passe son temps à se vanter d'avoir de l'argent, à ne pas savoir qu'en faire et de les planquer dans les tiroirs de son salon, de la commode de son salon. Notre héros se dit que l'opportunité est trop belle et puis que, bon, étant de gauche, le partage des valeurs, c'est un petit peu ce qui fait partie de son état d'esprit. Il se dit qu'il va cambrioler ce con. Il le suit gentiment, rentre chez lui, attend que le con soit couché et commence à vider la fameuse commode qui s'avère effectivement remplie de billets. Et puis, retournement de situation, le con visiblement n'était pas alcoolisé et il décide, il pointe une arme vers notre héros. Et lui dit, écoute, maintenant tu bosses pour moi. Et tu vois là, c'est le gars qui bossait pour moi avant toi. Il est mort, maintenant tu vas aller l'enterrer. Et voilà que notre héros se retrouve face à un dilemme. Fuir ou tenter de faire la peau à cet individu qui le menace. Mais bon, il est un petit peu de gauche. Alors ce serait quand même bien qu'il fasse ça de manière propre. Il n'aime pas nuire à son prochain. Alors si ça vous choque un petit peu que je dise qu'il est gauche, c'est typiquement son leitmotiv, c'est comme ça qu'il le dit. Pourquoi je vous dis que c'est une petite pépite? Eh bien parce que cet ouvrage, ce sont des dialogues qui sont complètement ciselés. Ce sont des, on a l'impression de vivre une pièce de théâtre en quasi huis clos, qui est vraiment très très bien. Le dessin est assez fabuleux. On n'est que sur du noir et blanc, mais du coup, on a un espèce de ressenti qui est vraiment très efficace. Beaucoup de dégradés, beaucoup de choses. C'est très vivant. Le personnage principal, on le sent un peu crasse, un peu il est un petit peu dégarni en Marcel avec les bras velus. C'est vraiment un personnage qui est très les personnages sont très parlants, sont très visuellement impactants, et c'est vraiment super agréable à lire. On se prend de passion, on se pose des questions, comment cet homme va réussir à retenir prisonnier ce brave vieillard, puisque le héros est quand même plutôt bien bâti, et on n'aimerait pas forcément se prendre une patate ou une main dans la tête. Et c'est vraiment vraiment intéressant, c'est vraiment passionnant de suivre cette espèce de huis clos jusqu'à un dénouement qui est on ne peut plus inattendu, que je vous laisserai bien entendu découvrir, je ne vais pas vous spoiler. Comme beaucoup d'ouvrages, ça se lit malheureusement beaucoup trop vite, mais ce n'est que pour mieux y revenir et savourer l'ambiance, les cadres, le texte. C'est vraiment beau, c'est vraiment sympa, c'est une vraie pépite, un beau bouquin qui vraiment va pouvoir vous transporter dans une histoire qui est autant rocambolesque. Je ne sais pas si ça a été adapté en pièce de théâtre, mais vraiment, moi, je vois vraiment une pièce de théâtre. C'est pas le titre qui m'y fait penser, mais un dîner de cons, un petit peu plus acide, un petit peu plus acerbe, ou quelque chose comme ça. Il y a des scènes qui sont pas forcément tout public, mais ça reste vraiment quelque chose d'hyper intéressant, d'hyper intelligent, et ça donne vraiment, vraiment envie. D'en lire plus, je pense que si j'ai le temps, un jour, peut-être, je me pencherai sur les autres textes de Franz Bartelt, puisque je pense que cet album doit quand même beaucoup à l'auteur d'origine. Je vous redonne les références, hein, n'hésitez pas, allez-y, c'est vraiment très bon, ça s'appelle La Cage aux Cons, d'après Franz Bartelt, de Robin Recht et Mathieu Angotti. C'est aux éditions Delcourt, et c'est sorti il y a peu de temps, et c'est vraiment, vraiment très très bien. On change complètement de registre, on va aller vers une biographie, plus du comics quand même, puisqu'on va du côté de la culture américaine, avec Bowie. C'est la première biographie illustrée sur David Bowie, c'est signé Mike Allred, et c'est publié aux éditions Hugin Munin. C'est vraiment une grosse grosse découverte. Alors si vous ne connaissez pas David Bowie, courez le lire. Si vous connaissez David Bowie, courez le lire, parce que je pense que vous aurez au moins autant d'informations à découvrir. On est sur une biographie qui est assez importante, il y a 160 pages, c'est un gros volume, et on va couvrir toute la vie de David Bowie, toutes ces découvertes, toutes les choses qui, toutes les rencontres qui ont pu forger ce personnage hors norme, ce personnage aussi charismatique qu'il en est, hein. Je vois pas comment dire de plus. C'est vraiment un personnage qui est à la fois un individu et un personnage qui est à la fois autant hypnotique que charismatique, et c'est vraiment un truc de dingue. On va le découvrir de ses débuts, des concerts qui ont pu l'inspirer, que ce soit les concerts d'Alice Cooper ou les concerts que lui a pu donner avec des personnes qui vont devenir par la suite des gens très très influents. Ses amitiés et animosités avec le leader du groupe T-Rex. Il y a vraiment quelque chose par toutes ces on passe par toutes ces métamorphoses, on a vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Et alors, je connaissais la musique de David Bowie, je connaissais quelques images aussi iconiques qu'on peut les avoir, cette espèce de grande robe, enfin sa robe pour homme, ou encore son espèce de costume avec les espèces de grandes jambes, là j'ai plus le nom. Et on découvre beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes qui ont pu permettre de forger le caractère de cet individu complètement hors norme, complètement déjà hors du temps, jusqu'à tous les morceaux qui ont pu faire son succès. Les personnes qui ont pu graviter autour. Graphiquement, c'est très proche. Il y a quelques belles pages, c'est réducteur, mais il y a de belles pages qui s'inspirent directement des morceaux musicaux. Les rencontres entre Bowie et Ziggy Stardust, par exemple. Les passages un petit peu spatiaux quand on évoque Space Oddity. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, hyper instructif pour découvrir ce personnage aussi haut en couleur que charismatique. Et vraiment, c'est vraiment superbe. Un bon coup de foudre, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré savourer, découvrir. À lire d'un coup, je rappelle que les biographies à lire d'un coup, souvent c'est un petit peu indigeste. Là, ça reste quand même assez fluide, mais vraiment faut prendre son temps, faut prendre le temps de le lire morceau par morceau, époque par époque. C'est ça qui est aussi intéressant avec David Bowie, c'est qu'il a eu ses époques, donc on peut laisser le temps et puis on picore un chapitre, quelques pages. Puis quand on se rend compte qu'on change de décennie ou quand on change de période visuelle, on peut faire une petite pause et reprendre juste après, et ça marche vraiment bien. Un bel album qui est sorti il y a un mois à peine. Allez-y, n'hésitez pas, hein, je vous redonne les références. C'est Bowie de Mike Allred. C'est préfacé hein, par Neil Gaiman, ce qui est plutôt sympa. Une belle préface en plus où il explique qu'il aurait bien voulu aller plus loin avec Mike Allred. Et puis, c'est aux éditions Huguin Munin. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment très très bon. Il faut se faire plaisir avec ça. Je vous propose qu'on se refasse une pause musicale. On vient de parler de David Bowie. Je vous propose de l'écouter avec Starman, un morceau qui reste en dehors du temps. Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours Seb aux commandes de la case du même nom. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Vous venez d'écouter Starman de David Bowie, puisqu'on parlait d'un album, d'une biographie illustrée sur sa vie il y a quelques instants. Et c'était vraiment, vraiment très, très bon. On va rester du côté des États-Unis avec un petit peu de comics. Je voudrais vous parler d'un petit bijou que j'ai vu dans la collection Urban Link chez Urban Comics. Ça s'appelle Something is Killing the Children de James Tynion IV et de Verser Del Edera. Je pense que je prononce très mal ces noms. Je m'en excuse. C'est le volume 1, ça s'appelle The Angels of Archer's Peak. Et c'est une petite tuerie. C'est un volume, un petit format qui est assez court, 120 pages. On a un super traitement graphique. On a une jeune femme vue de profil, les yeux visiblement très cernés, un espèce de bandana qui arbore des dents, une mâchoire avec des crocs autour du cou. Une cicatrice lui barre la tempe. Le texte « Something is killing the children » est en relief avec un vernis sélectif sur le côté. Le petit ouvrage est sur fond rouge. Et pour vous le résumer un peu plus, peut-être trop brusquement, j'imagine que vous connaissez Buffy contre les vampires, où une tueuse et ses amis affrontent des créatures démoniaques et fantastiques sur un campus américain. Bon, vous gardez la tueuse, vous gardez les créatures démoniaques, vous enlevez les copains, vous enlevez l'univers de campus et vous mettez un peu plus de glauque, vous mettez un personnage qui est extrêmement fatigué, qui semble vouloir faire son boulot uniquement par on va dire dévouement, je cherche mon mot, parce qu'elle sait qu'elle est la seule qui peut faire ça, et qui affronte des monstres qui vont tuer des enfants. Elle a une personne qui semble lui chapeauter un petit peu, lui trouver ses missions. Elle est accompagnée d'une espèce de petite pieuvre en peluche, et dans ce volume là, dans ce premier épisode, elle se retrouve dans une petite ville où des enfants ont disparu les uns après les autres, certains sans laisser de traces, et elle va commencer à enquêter pour essayer de découvrir quel monstre peut avoir provoqué la disparition de ses enfants, si tout est lié, bien entendu, et surtout faire le nécessaire pour que ce monstre cesse ses agissements. Autant vous dire que c'est vraiment très très efficace. C'est, je sais pas comment le décrire. C'est vraiment un bon moment. C'est une petite histoire d'horreur, mais la sauce un peu teenage, avec quelques moments de gore. C'est bien pensé, il y a visiblement des secrets, cette cicatrice qu'elle a sur la tempe, la personne qu'elle a au téléphone, cette peluche qui semble communiquer avec elle, tout ça c'est des secrets dont vous aurez une partie des réponses dans l'ouvrage. Ce qui est vraiment marquant également, c'est le style graphique. On a un style qui est un petit peu lâché, avec un ancrage assez léger, et des couleurs qui ont des ombrages, je sais pas comment l'expliquer, qui ont des ombrages rajoutés. Il y a une texture dans ce comics qui est vraiment hyper intéressante. C'est vraiment un dessin qui est agréable. Il y a une très bonne dynamique. On a vraiment envie d'accompagner les personnages, et les émotions sur des personnes passent aussi énormément par leur physique. Beaucoup de comics ou beaucoup de bandes dessinées vont permettre des personnages d'avoir des expressions faciales très importantes. Là, on a un gros travail sur effectivement le physique. On sent que le personnage principal, dont j'ai mangé le nom, Erika, on sent qu'elle est lasse en fait de ces combats, mais que elle continue parce que c'est son job et que il n'y a qu'elle qui peut le faire. Elle va rencontrer un autre personnage qui va s'incruster, hein, on va dire dans sa vie de manière un petit peu brutale. Et lui également, on sent que c'est quelqu'un qui a l'habitude de se faire peut-être un petit peu malmener, c'est pas lui le leader, mais les positions et le langage corporel des personnages fonctionnent très bien dans ce comics, et c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant à découvrir. Donc je vous laisserai le découvrir. C'est vraiment, c'était mon coup de cœur là des derniers jours. C'est Something Is Killing the Children, c'est de James Tynion 4 et de Werther Del Edera. C'est aux éditions Urban Link. C'est toujours Urban Comics pardon, dans la collection Urban Link, et le volume 1 s'appelle The Angel of Archer's Peak, et c'est vraiment très très bien. On va toujours rester dans le comics avec un bouquin qui n'est pas vraiment une BD, mais qui parle pas vraiment non plus de bande dessinée. Il s'agit de The Umbrella Academy, le making of aux éditions Delcourt. Comme son nom l'indique, c'est un making of de la série tiré du comics du même nom. Et c'est un bel ouvrage. On est sur un grand format carré de 160 pages, et on va découvrir un peu plus l'univers de la série The Umbrella Academy, en faisant des parallèles entre les images de la série, les croquis issus du comics. On va développer aussi, présenter un petit peu les différences qu'il peut y avoir. Ça reste, comment dire, on rentre pas dans le détail, dans l'explication, mais on va nous présenter des choses qui vont nous permettre, nous, de nous rendre compte des différences et du travail qui a pu être effectué. On va pouvoir nous présenter, par exemple, des croquis de personnages, de leur évolution jusqu'à ce qu'ils sont dans la série. Donc c'est un bon complément pour les gens qui ont lu à la fois le comics et qui ont vu la série. Ça peut être aussi une bonne porte d'entrée pour les gens qui ont vu la série mais qui n'ont pas lu le comics, et ça peut aussi également être une porte d'entrée pour les gens qui ont lu le comics mais pas vu la série, pour se donner envie de voir cette adaptation qui est, ma foi, plutôt agréable à regarder, avec actuellement 2 saisons. On découvre beaucoup de choses, on va s'attarder un petit peu sur chacun des personnages et leur environnement, on va détailler un petit peu les choses, on nous présente leur costume d'origine et comment ils ont été retravaillés pour la série. Et puis on va découvrir également tout ce qui a pu avoir été fait de manière complémentaire dans la série, pour pouvoir agrémenter un petit peu tout ça. On peut découvrir par exemple le fait qu'il y a un portrait de Sir Hargreaves, le patriarche qui a un souci en début de série, qui a été réalisé par Gabriel Ba, qui est le dessinateur de la série, et du comics. Et du coup, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir tous ces petits détails, ces petits parallèles. On découvre des personnages, on nous montre aussi comment. Et là, du coup, on sort complètement du contexte de la bande dessinée, mais comment on peut aider à réidentifier le caractère d'un personnage juste par le décor et les accessoires et les objets qu'il utilise. Par exemple, le personnage de Vanya, qui a toujours été un petit peu mis en retrait, c'est celle qui a une chambre plus petite, moins meublée, avec moins de choses. Alors que son frère, par exemple Diego, lui, il a une grande chambre mais qui est très spartiate, juste parce que lui, il en a envie et que c'est lui qui se l'impose. Et c'est vraiment hyper intéressant de découvrir ces aspects cinématographiques qui peuvent nous rendre un personnage agréable ou complètement anodin, et de comparer avec la façon dont le langage, en fait, bande dessinée peut répondre au langage cinématographique. Et c'est vraiment super agréable. Donc c'est un beau bouquin. C'est vraiment un truc, un livre très intéressant à lire, à découvrir et à feuilleter. Et à parcourir, parce qu'on est plus sur un beau livre, un livre d'art, que vraiment un livre où il y a de la lecture. Et c'est vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas, allez-y. Je redonne les références. Hein. C'est The Umbrella Academy, le making of. C'est aux éditions Delcourt. Avant de partir pour la dernière partie de notre émission, je vous propose une nouvelle pause musicale. On était sur David Bowie tout à l'heure, je vous propose de rester sur David Bowie avec la reprise de The Man Who Sold the World par ML Matlouti. Je vous laisse profiter de cette sublime voix. On se retrouve dans quelques instants.
We passed upon the stage. surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago.
C'était Mel Matlotti qui reprenait la chanson de David Bowie, The Man Who Sold the World. Avec mon accent anglais, bien entendu. Vous êtes toujours sur la case de Seb et on va partir un petit peu du côté de l'Orient, où je raconte des bêtises, du côté du Japon, le pays du soleil levant, avec deux mangas complètement différents. On va commencer avec Tokyo Shinobi Squad, sur un scénario de Yuki Tanaka et un dessin de Kento Matsura. C'est aux éditions Kaze, c'est un shonen. C'est dans un futur proche, suite à un rapprochement grâce à de nouveaux moyens de transport. En fait, Tokyo est devenue la ville la plus surchargée en criminels. C'est donc devenu la ville la plus dangereuse du monde. Et pour faire face à cette criminalité, des mercenaires, des vigilantes, comme on dit en américain, ont commencé à refaire surface. Et ce sont principalement des clans de shinobi, habituellement des guerriers de l'ombre. Ces guerriers sont devenus des mercenaires capables de remplir des contrats, que ce soit pour les riches et puissants capables de se les payer, ou simplement pour faire la justice en soutien de la police qui est un petit peu débordée par cette criminalité qui a pris une ampleur assez monstrueuse. On suit l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Jin et qui va sauver un autre petit garçon poursuivi par des malfrats. Il s'avère que ce petit garçon est détenteur d'un rouleau. Je ne sais pas si vous vous rappelez Naruto, les rouleaux des techniques, les ninjas. Et bien là, dans ce rouleau, c'est un des 5 grands rouleaux qui est toujours recherché par quasiment tout le monde. Et Jin, ce shinobi, va décider de prendre ce jeune garçon sous son aile afin de le protéger pour éviter que ce parchemin tombe entre de mauvaises mains. La particularité de Jin, c'est que c'est un shinobi dont le clan est extrêmement puissant, mais de par sa particularité et son envie de correspondre à un code d'honneur qui lui est propre, Jin refuse de travailler pour des grosses entreprises, de travailler pour des personnes riches ou d'accomplir simplement des missions qui ne lui conviennent pas. Ce qui fait qu'il est quasiment toujours sans le sou et les autres membres de son clan, ils sont pas nombreux, hein, c'est des petits clans de quelques dizaines de personnes. Là, ils sont moins nombreux dans le clan de Jin. Mais il a cette espèce de mentalité qui fait que il ne prendra que les missions qu'il veut et très rarement les missions qu'on lui impose ou dont il aurait besoin pour subsister. Que dire de Tokyo Shinobi Squad? Déjà, c'est un manga qui est plutôt stylé. Les chara-designs sont un peu différents de ce qu'on peut avoir d'habitude. Ça me fait un peu penser à Fire Force au niveau du costume de Jin, cette espèce d'impair qui lui couvre les épaules. On a un peu la tenue pompier. Mais on a un chara-design qui est un petit peu différent de ce qu'on peut avoir d'habitude, qui est vraiment agréable. Les personnages sont assez charismatiques et attachants. Les personnages ne sont pas hyper sexualisés, chose qui est quand même assez fréquente dans les mangas, surtout les shonen. Là, les personnages, il y a du sexy, hein, je vous le cache pas, il y a de l'action puisque c'est vraiment le but du shonen, mais ce n'est pas il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de gore outrancier, il n'y a pas d'hypersexualisation et ça fait plutôt du bien. Le style graphique est plutôt affirmé, on a des personnages qui sont assez fins et lancés, mais sans abus. Le seul abus qu'on pourrait peut-être trouver, c'est que tous les personnages ont des cicatrices un peu partout. Mais bon, ce sont des shinobi, ce sont des ninjas habitués à se battre, et ils portent les séquelles de leurs différents combats, ce qui est, ma foi, plutôt cohérent avec ce qu'on attend d'un personnage. Autre point intéressant, chaque personnage va avoir des techniques qui lui sont propres, des techniques qu'il va avoir appris à maîtriser. Et l'usage de ces techniques, alors si certains personnages ont des usages assez basiques, Jin manipule l'électromagnétisme, donc il a des capacités qui sont un petit peu originales et qui fonctionnent plutôt bien. Je vous laisserai en découvrir, parce que le but n'est pas non plus de vous spoiler et de vous raconter le bouquin, mais l'usage qui est fait de l'électromagnétisme est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pourrait imaginer. Et c'est vraiment sympa, c'est assez innovant, c'est assez imaginatif. Moi, j'ai juste un petit bémol sur certains personnages, de par ses rapprochements via ces nouveaux moyens de transport, Tokyo est devenue une ville extrêmement multiculturelle, et il y a certains personnages qui s'expriment dans des choses que même Michel Leeb n'aurait pas fait. Et j'avoue que je trouve ça un tout petit peu dommage. Alors, c'est un tout petit bémol dans un manga qui est, ma foi, quand même fort dynamique, fort agréable à lire. Mais c'est vraiment très très intéressant et j'étais plutôt surpris. Je m'attendais pas vraiment à avoir quelque chose d'aussi construit, d'aussi intéressant. Ça reste du shonen, ça reste du manga de baston avec un héros qui est au grand cœur et qui est capable de faire beaucoup pour ses objectifs ou ses modes de pensée, enfin c'est pour ses amis principalement, c'est surtout ça. Mais du coup c'est vraiment agréable, les affrontements sont originaux, on voit des adversaires qui ont des techniques de combat et on se laisse prendre, on se laisse emporter par ces personnages qui sont, ma foi, plutôt attachants et on a envie d'en découvrir rapidement un peu plus. Je vous redonne les références, il s'agit de Tokyo Shinobi Squad, c'est le tome 1. C'est aux éditions Kaze, c'est un scénario de Yuki Tanaka sur un dessin de Kento Matsura. On va rester du côté du Pays du Soleil Levant avec un autre manga qui m'a beaucoup surpris, surtout parce que le nom me paraissait... je m'attendais à autre chose. Il s'agit de Hitman, les coulisses du manga de Kouji Seo, c'est aux éditions Pika. Je ne vous cache pas que quand j'ai lu Hitman, je me suis dit tiens, ça va être un truc avec des assassins encore. Puis j'ai lu le sous-titre, donc il y a un gros Hitman en rouge, et puis il y a marqué les coulisses du manga. Je me suis dit tiens, c'est peut-être un making-of en fait du manga Hitman. Et puis quand on regarde un petit peu plus, en fait, on a deux personnages sur la couverture. Un jeune homme avec une liasse de feuilles très dynamique, alors c'est une couve qui est très très épaissue. Et puis une jeune femme en fond qui nous pointe du doigt, et en fait on se rend compte qu'elle nous pointe pas vraiment du doigt, mais surtout qu'elle a un stylo. Un stylo plume avec une plume assez fine. Et puis si on regarde bien le tour de la couverture, on distingue des graduations. En bleu, comme sur les pages de manga. Si vous avez déjà vu des originaux de manga, il y a beaucoup ces graduations-là qui permettent de dessiner des cases. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, c'est vrai que dans le fond, on a aussi des croquis, des roughs, comme on peut les appeler, de dessins de manga. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, j'ai commencé à lire. Et l'histoire va nous parler d'un jeune garçon qui s'appelle Ryunosuke Kenzaki et qui va postuler pour travailler chez un éditeur de manga très connu, un magazine qui s'appelle Shonen Magazine, donc qui à mon avis fait référence au Young Shonen Jump. Et il va arriver à se faire embaucher dans ce magazine. La personne qui aurait dû l'avoir en tutelle semble ne pas vouloir venir travailler et le jeune homme se retrouve un petit peu laissé à son corps défendant et vaquer aux occupations qui l'intéressent. Il va finir par prendre un appel et convoquer une jeune femme pour voir si celle-ci, si le manuscrit que celle-ci veut proposer au magazine peut convenir dans les publications. Il va commencer à essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne cette maison d'édition. En fait, c'est un magazine de prépublication, quelque chose qui est beaucoup plus courant au Japon que nous en France. Je ne sais pas s'il reste encore des magazines de prépublication en France. Et il va commencer à vouloir essayer d'éditer cette jeune femme parce qu'il trouve que son talent est super intéressant, que ce qu'elle fait c'est plutôt bien, que ses histoires sont intéressantes. Et c'est là qu'il va commencer à se confronter à ses autres collègues et il va se rendre compte de la dureté du milieu de l'édition. En tant qu'éditeur, lui, il ne sera considéré qu'à partir du moment où il aura fait vendre des volumes. Il sera, sa qualité sera comptée en nombre de volumes vendus. Du coup, il y a la star, on va dire, du magazine qui a vendu je ne sais plus combien de millions de mangas. Et même juste le fait que lui parle, c'est un outrage. T'as rien vendu, t'as pas le droit de parler à cette star-là. Et du coup, il va se rendre compte de plusieurs choses. Jusqu'à découvrir son tuteur qui en fait lui est considéré comme un loser puisqu'il n'y a aucun volume vendu puisqu'il ne fait que reprendre en fait des séries qui allaient se terminer, qui allaient se clôturer. Ça me paraît un peu brouillon hein, ce que je vous dis, mais c'est vraiment beaucoup plus clair dans le manga. On suit un jeune garçon qui découvre ce que c'est que le travail d'éditeur avec une jeune femme qui va elle aussi découvrir ce que c'est que le travail de dessinateur. Et c'est là où on se rend compte que il y a une espèce d'osmose qui se fait entre l'éditeur, une espèce de complémentarité entre l'éditeur et le dessinateur. C'est pas parce que le dessinateur il est très très bon qu'il va réussir. C'est pas parce que le dessinateur ou l'auteur est capable de faire de très bons scénarios qu'il va réussir. Il a aussi besoin de ce soutien d'un professionnel qui va l'aider à prendre du recul et le conseiller, notamment en termes de rythme, en termes de pagination, en termes de cadrage, sur des choses qui vont permettre aussi de plaire à un certain public. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on découvre pour une fois pas un personnage qui dit « Tiens, moi je vais faire du manga, voilà comment j'ai appris à dessiner et comment je fais un manga tout seul. » On découvre aussi ce qui va plus loin, ce qui fait que ces livres sont publiés et ce qui fait que ces livres peuvent aussi avoir un succès auprès du public. C'est vraiment hyper intéressant, je m'attendais vraiment pas du tout à ça et c'est vraiment très 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 sympa. Au niveau du dessin, on est sur un dessin qui est très clair, qui est très propre. Le dessin m'a fait un petit peu penser à la série de jeux vidéo Phoenix Wright, avec ses personnages avec des cheveux un petit peu relevés et de beaux costumes, de beau travail. C'est vraiment propre. C'est vraiment très agréable. On a des cadrages qui sont intéressants. On a des personnages qui vont se développer. On nous fait un rappel régulier en fait des aptitudes des personnages avec un petit encadré. Donc Ryunosuke, lui, on lui fait un petit encadré en rappelant qu'il a toujours rien vendu. Et la jeune femme qui l'accompagne, elle a une espèce de petit diagramme avec cinq compétences et les progressions des compétences qui se font au fur et à mesure du manga, et elle progresse plutôt vite, ce qui me laisse penser, comme d'autres personnages du manga, qu'elle pourrait quand même aller très loin. Et du coup c'est vraiment très très intéressant, ça laisse sur sa fin, on a un petit cliffhanger à la fin et on se fait quoi ? Il y a un vrai boulot de narration, il y a un vrai boulot très très fort qui est hyper intéressant. Et c'est un vrai bijou ce petit manga pour approfondir ce que c'est que faire du manga. Donc voilà, si vous savez dessiner et que vous vous dites un jour je vais proposer mon manuscrit, commencez par lire Hitman, ça pourrait peut-être vous donner des infos. Je vous redonne les dernières références. Il s'agit de Hitman, les coulisses du manga, c'est de Kuji Seo et c'est de chez Pika Edition. That's all, folks. Vous l'avez entendu, c'est pour qui ? C'est bientôt l'heure de nous quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que cette sélection d'albums vous a fait un petit peu voyager malgré la situation sanitaire actuelle qui, bon, apparemment a l'air de s'améliorer, mais on reste encore prudent. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. On se retrouve dans 15 jours et surtout n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je ne souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Yeah.
urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Ce que votre imagination peut concevoir.
Radio G 101.5 FM.
À présent, la suite de nos programmes avec une